Merci beaucoup. On aimerait continuer. On va laisser la place aux acteurs de la prochaine table ronde. Merci beaucoup, Zita. Donc, j'appelle Charles Verret, Pierre Stègre, Géraldine Werner, Daniela Djovic et Agathe Dumont à la modération.
Alors, je vous laisse vous installer comme vous voulez. Hein ?
Non, absolument pas.
Je me mets où, moi ? Je me mets là, c'est bon ? Alors, je m'excuse par avance auprès de vous, car nous allons avoir moins de temps que prévu, alors que vous avez des tonnes de choses à dire absolument passionnantes sur ce sujet. Mais comme il y a un cocktail après, on pourra continuer le débat. Donc, table ronde sur... la question de l'accompagnement, puisqu'on a parlé des trajectoires du point de vue de la sociologie, et donc maintenant on va parler des pratiques d'accompagnement, très concrètement, avec des gens qui accompagnent au quotidien, et qui sont là pour ça. Alors je vous les présente rapidement. Daniela Djovic, que nous avons invitée pour sa connaissance à la fois des jeunes artistes de cirque contemporain, et pour sa connaissance plus générale du secteur cirque, bien sûr, puisqu'elle a eu plusieurs vies professionnelles et a notamment été, s'est intéressée notamment à la question des arts in situ, des arts de la rue, des questions de l'accompagnement en résidence, et puis plus récemment, coordinatrice générale de la Fédération européenne des écoles professionnelles de cirque. Ensuite, juste à côté, Géraldine Werner, qui est cofondatrice, je commence à être fatiguée, cofondatrice et codirectrice de AIROP, qui est donc une structure qui est dédiée aux arts du cirque, avec différents pôles d'activité, et notamment l'accompagnement, un projet sur le territoire, un laboratoire pour les arts du cirque, dont elle nous reparlera tout à l'heure. Elle connaît bien l'aventure Jeune Talent Cirque, puisqu'elle y a travaillé au début, et elle est membre du conseil d'administration de Circus Next également. Pierre Stègre, qui est notre fabuleux directeur technique de Jeune Talent Cirque Europe depuis 2007 et qui donc accompagne les artistes dans le nerf de la guerre, c'est-à-dire ce qu'ils vont faire au plateau et aussi plus largement. Et puis il est également directeur technique pour différents festivals, notamment Pisteur d'Étoiles à Aubernais et puis auprès de différentes compagnies. Et enfin, Charles Verret. Donc Charles Verret, qui est directeur artistique d'Atlas, qui est un label de création vivante qu'il a créé en 2015 et qui a accompagné des artistes de cirque, mais aussi de théâtre pendant plusieurs années. Il connaît donc bien cette problématique. Il développe aussi une réflexion là-dessus comme enseignant. Et il a fait partie du programme de mentoring de Circus Next, puisqu'il a donc accompagné sur des projets plus de structuration et pensée du projet professionnel différents artistes lauréats de cette édition. Voilà, c'était une présentation rapide. Donc je vais vous dire maintenant pourquoi on a décidé de faire cette table ronde. Alors il y a plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une question passionnante, l'accompagnement, et qu'elle n'est jamais assez discutée. Ensuite parce qu'on avait eu un premier temps au Festival Spring, où on avait essayé de poser cette question par rapport à justement d'autres démarches d'accompagnants, notamment dans le secteur des industries créatives, des incubateurs d'innovation. On avait posé la question beaucoup de la relation entre artistes, institutions, notamment à travers le regard de Baukeli Evans, qui était venu nous parler de ça. Et ce qu'on avait imaginé avec Cécile, c'est de donner la parole à ceux qui sont sur le terrain de cet accompagnement, très concrètement, qui sont ni du côté d'une institution, d'une structure, ni des artistes, mais qui sont ceux qui sont entre. Donc ces fameuses personnes entre, qu'on a du mal à identifier, mais ça y est, on les identifie bien, puisqu'ils sont devant vous. Donc vous pouvez mettre des visages sur ces personnes entre, et avec différentes compétences, postures que cela implique. On va bien distinguer, juste pour que ce soit clair et qu'on n'ait pas de débat là-dessus, l'accompagnement dit artistique, donc avoir des regards extérieurs, des aides à la dramaturgie, le développement d'un projet, d'un accompagnement qui serait plus à la structuration, au développement d'un projet professionnel, donc le porteur de projet. On va plus être sur ce volet-là de l'accompagnement, même si évidemment penser un projet artistique et penser un projet plus largement professionnel est intimement lié. Donc voilà un petit peu des thématiques autour desquelles on va tourner. Le Circus Next est un dispositif qui accompagne les auteurs émergents. Donc c'est le premier ou le second spectacle. Bien sûr, on ne va pas se limiter à cette question de l'émergence. La question de l'accompagnement du parcours, elle se pose tout au long de la vie. Et on l'a vu, de l'insertion professionnelle avec Zita jusqu'à la reconversion avec Marine et Émilie. Donc on va vraiment réfléchir les choses dans le temps. Alors, la première porte d'entrée dont on a discuté, c'est la question, pour faire le lien avec ce qui a précédé, de la formation et de cette période de transition. Je pense qu'on peut beaucoup raisonner en termes de transition dans ces trajectoires professionnelles. Et donc, de finalement, est-ce que cette question de devenir justement porteur de projet, elle est posée dès la formation ou pas? Et si oui, comment elle est posée et comment est-ce que ça a aussi pu évoluer ces dernières années, puisque évidemment le secteur est en évolution, donc la formation et la transition vers l'insertion professionnelle, elle évolue aussi. Alors, je ne sais pas si Daniela, tu veux commencer là-dessus, parce que tu es vraiment à ce croisement entre les deux, et bien sûr les autres peuvent renchérir puisqu'ils côtoient les artistes aussi au quotidien dans ces moments de transition.
Ah, un directeur technique, merci. Donc accompagner l'émergence artistique, je pense que voilà, évidemment c'est le rôle d'une école, c'est le rôle d'une fédération d'écoles, et évidemment l'émergence dès l'école de l'identité artistique et la meilleure connaissance d'un projet professionnel, l'accompagnement vers, j'ai envie de dire, l'autonomie artistique d'un étudiant et le cœur quelque part de tous les débats de la FEDEC. De chaque école. Après, évidemment, il y a eu toute une évolution des projets pédagogiques qui ont accompagné aussi les évolutions de programmes pédagogiques dans lesquels on a vu s'insérer récemment beaucoup sur l'intégration dans le monde du travail, des compétences liées à l'insertion professionnelle, mais pas seulement, parce que la qualité artistique reste une priorité et de là découle, et peut-être d'une meilleure connaissance de son propre trajet, une meilleure peut-être situation de chacun sur les différents marchés, dans son propre pays, mais aussi en Europe. Donc voilà, c'est un peu pour résumer. Après, c'est vrai que chaque école a sa propre politique et ses outils, et aussi ses partenaires locaux, régionaux ou nationaux et européens. Et on a... aussi une émergence d'écoles qui ont des cellules de production ou qui ont des années d'insertion professionnelle ou qui ont un programme pédagogique qui identifie clairement un statut d'apprenti ou de période de stage en entreprise, si on approche ça par le volet emploi.
Géraldine, Pierre et Charles, vous fréquentez régulièrement des artistes qui sortent de l'école où il y a eu une petite période de transition parfois. Du coup, peut-être évoquer ce qui vous semble être finalement les questions qui peuvent être soulevées par ces artistes-là quand ils sont dans ce temps dit de transition au départ d'une carrière professionnelle et quelles sont peut-être aussi les questions qu'il faudrait leur poser.
Alors, c'est vrai que pour travailler depuis plus d'une vingtaine d'années avec des artistes qui sont pour beaucoup effectivement au début d'un parcours professionnel, sortant d'école ou ayant même d'ailleurs pas fait forcément un passage par une école. Comment est-ce qu'on s'y prend quand on veut lancer son premier projet, faire son premier spectacle, puisque c'est souvent ça la porte d'entrée, la première envie, la volonté, la passion, la motivation, elle se situe là, c'est ce besoin de s'exprimer artistiquement. Bon, c'est une fois qu'on a dit ça, mais comment est-ce qu'on s'y prend? Je crois que c'est vraiment là la difficulté. Et la première question, c'est j'en suis là, j'ai des idées, j'ai des envies, j'ai des pistes. Voilà, chacun en fonction a des préalables, bien évidemment, mais voilà, comment est-ce que ça marche? C'est, je crois, la première question et celle qui revient le plus souvent, c'est comment est-ce que ça marche? Donc c'est très global et ça recouvre tous les, justement les corps de métier. Donc on se dit souvent qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se fait justement pour ceux qui seraient passés dans une école, comment ça se fait qu'ils aient pas au moins des bribes de réponses par rapport à ça. Au final, je me dis, quand je regarde dans notre secteur l'ensemble des corps de métier que ce qui recouvre, tous autant que nous sommes, aux différents endroits que nous sommes, avons qu'une vision assez partielle, infime, en tout cas aussi quand on est au début d'un parcours, de ce que recouvrent les autres métiers. Donc je pense que voilà, on peut déjà un petit peu les décomplexer en disant bon bah t'inquiète pas, enfin voilà, tu es peut-être ignorant sur ces questions-là, mais nous le sommes tous à nos endroits. Et donc c'est plutôt comment est-ce que effectivement on va faire ensemble. Donc il y a tout un contexte, il y a tout un secteur qui est quand même relativement bien structuré. On peut y mettre des bémols, mais on peut quand même estimer qu'il est bien structuré, avec des métiers pour lesquels il y a eu des formations. Donc j'envisage vraiment moi cette chose, parce que c'est vrai que je la re-questionne régulièrement, mais comme en fait l'envie déjà d'engager une aventure commune, de suivre cette, justement cette envie, ce projet, cette motivation, cette passion et cet artiste qui voilà qui a une proposition à faire. Est-ce qu'on a envie d'y aller ou pas? Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on met en œuvre et qu'est-ce qu'on convoque? Et c'est là que ça se construit, et ça se construit à plusieurs. Il faut un équipage. J'évoquais dans les entretiens préalables qu'on a pu avoir cette image qui, voilà, pour moi, semble celle qui reflète le plus, en tout cas, ma perception, mon sentiment, c'est on embarque sur un navire, et puis il y a un équipage qui doit être effectif et efficient pour que, du coup, on puisse tracer la route ensemble. Une route qui va être un peu sinueuse. Enfin voilà, on va devoir affronter différents moments, mais on va le faire ensemble. Donc il y a pour cela un besoin préalable d'interconnaissance, me semble fondamental. Et après, la question de qui occupe quel poste et de bien déterminer les rôles, c'est aussi certainement la deuxième étape essentielle. Mais est-ce que l'artiste... Donc le porteur du projet, hein, à l'initiative du projet, est forcément celui, je dis ça intentionnellement peut-être pour la suite des propos, qui doit prendre la barre du navire. Pour ce qui me concerne, j'en suis pas convaincue. Voilà. Je pense qu'en fonction justement des projets, en fonction des endroits de chacun, en fonction des envies, des compétences, etc. Qui va assurer, voilà, ce rôle-là, ça peut être toute autre personne, ou ça peut. Donc souvent, effectivement, il n'y a pas une forme d'accompagnement. Il y en a autant qu'il y a de projets, autant qu'il y a de personnalités. Et sur ce, je passe la parole.
Non, c'est pour dire que j'étais assez d'accord avec Géraldine. Après, ma réflexion par rapport aux différents artistes que j'ai pu accompagner, y compris pendant les sessions de mentoring sur la dernière édition de Circus Next, c'est qu'il y a, à mon sens, un vrai décalage à ce qu'on appellera à être par rapport au processus des formations et puis la réalité du métier. Il y a un vrai décalage entre la qualité d'artiste, même artiste-auteur, et le statut d'artiste professionnel. Et par professionnel, je parle pas très fort. Ouais, pardon. Par professionnel, ce que je veux dire par là, c'est le fait que professionnel, c'est-à-dire tu gagnes ta vie en faisant ce que tu fais. Donc tu te sers de ce que tu fais pour payer ton loyer et ton manger. Et l'enjeu n'est pas forcément évident pour chacun à chaque fois. Et autant je comprends complètement ce que dit Géraldine, je suis d'accord avec elle sur le fait que. On a parfois trop tendance à mettre l'artiste à l'endroit du capitana, et que c'est pas forcément à lui, parce qu'il n'en a pas forcément les moyens et la possibilité d'avoir une maîtrise globale du projet. Et c'est aussi à nous de construire l'équipage, quitte à prendre le pouvoir d'une certaine manière. Mais au-delà de ça, c'est la question, je pense que c'est très franco-français, des écoles d'art, où justement on forme des... Mais c'est pas propre au cirque, je pense pas. Parce que je connais un petit peu des gens dans d'autres secteurs aussi, où on forme des artistes à une forme d'excellence, un aboutissement, à une recherche sur la création, etc. Mais on ne forme pas forcément des professionnels. Et ça peut parfois rentrer en contradiction, et c'est bien dommage. Et par expérience, sur la dernière édition de Circus Next, On en parlait tout à l'heure pendant le déjeuner. J'ai remarqué, moi, je me suis vraiment fait la réflexion qu'il y avait une vraie différence parmi ces personnes qui sont en situation d'émergence, donc qui démarrent leur carrière, entre des artistes qui, bon, pour la plupart, étaient issus de formations, mais qui sont, qui vivent en France, qui vivent le système français, qui vivent le modèle structurant français, eux-mêmes n'étant pas forcément français, mais fonctionnant comme des Français avec l'institution française, pardon. Et des artistes que j'ai rencontrés qui, au même âge, sont non français et vivent ailleurs qu'en France. Et le rapport à la structuration... Pardon. Le rapport à la structuration, la structuration de pensée, j'entends, le rapport au métier, la question de la professionnalisation et des moyens mis en œuvre ne se fait pas du tout de la même manière. Quand je discute avec les gens... des Flamands vivant en Flandre de 22 ans m'ont tenu un discours et avaient un schéma de pensée, une structuration de pensée par rapport à leur projet professionnel qui était à des années-lumière de ce qui était celui d'artistes qui étaient plus vivant le système français où eux, justement, à aucun moment, ni par nécessité, ni par intérêt, on les avait amenés à se poser la question. Et je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais il y a un vrai décalage et je pense que c'est handicapant à terme. Après, ça se discute. Hein.
C'est l'intérêt de la perspective européenne dans ce projet aussi, hein, c'est de confronter des modèles. Il me semble que là, il y a deux choses différentes. Il y a la question de effectivement être le capitaine à la barre, comme le disait Géraldine, et est-ce qu'on s'identifie ou non à ça? Est-ce qu'on en a envie ou non, est-ce qu'on en a les moyens ou non, et puis après il y a la question de, alors il y a trois questions, même il y a celle-ci, il y a la question du projet professionnel, comme tu dis, vivre de son métier, pas dire vivre de son art, ça, un petit peu 19e-iste comme vision de l'artiste, donc vivre de son métier, avec toute la dimension quand même de polyactivité qui est présente, hein, qu'Émilie et Marine ont rappelé, c'est-à-dire que des carrières linéaires d'artistes de cirque, il y en a quand même peu. Et puis ensuite, il y a la question de l'autonomie, c'est-à-dire en gros, arriver dans sa trajectoire professionnelle à un moment à être à peu près autonome sur connaître le réseau, connaître comment ça marche, les bonnes personnes. Et je pense que quand j'ai discuté avec vous en amont de cette table ronde, vous m'avez tous, enfin vous êtes tous vous identifié à un rôle un peu de passeur aussi par rapport à ces informations-là. Et je pensais, Pierre, aussi... tu es donc directeur technique, mais tu me disais que finalement, les artistes, au-delà de leur conception de ce que va être la question justement de la technique, de la réalité parfois qui les rattrape, parce qu'en fait, c'est pas si simple et on n'est pas forcément préparé à ça, se posent aussi pas mal de questions d'un autre ordre sur les réseaux, connaissance des réseaux, de où je tourne, comment je tourne et comment je fais pour tourner.
Excusez-moi. Alors ouais, moi là je vais plus parler dans le cadre de Circus Next en fait, parce que c'est plus ça. Moi, juste le regard que j'ai en tant que directeur technique, c'est souvent les gens qui viennent vraiment avec leur premier projet, qui sortent d'une école, quelle qu'elle soit, une école supérieure, ils sont confrontés d'un coup à une réalité, quoi. Et cette réalité-là du terrain, j'ai l'impression, très peu abordé dans leur cursus, quoi. Et du coup, moi, sur Circus Next, j'interviens assez vite pour préparer juste les passages, que ce soit en Belgique ou après à Paris. Et en fait, il y a beaucoup de discussions qui tournent et qui ne sont pas des discussions purement techniques, mais c'est juste comment ils peuvent s'organiser, comment ils peuvent se monter en compagnie, qu'est-ce qu'il faut mieux faire, tout ça, quoi. Après, il y a... J'ai un accompagnement technique aussi à leur demande pour certains qui recherchent soit des régisseurs, tout ça, ou même dans la construction ou dans des idées à approfondir, quoi. Mais je pense que l'essentiel, il n'est même pas là, en fait. Il est juste sur le lien que je peux avoir. J'ai l'impression d'être une interface, en fait, entre vraiment l'artiste, la production Circus Next... Le théâtre aussi, parce qu'ils ne sont pas habitués à ne pas recevoir de fiches techniques. Mais vraiment, quoi, la problématique, elle est aussi sur ça, quoi. Et c'est aussi... moi, j'ai, ils ont besoin d'une connaissance sur le terrain, mais une connaissance sur le terrain, ça s'acquiert dans le temps. Et ce temps-là, ils l'ont pas toujours forcément, quoi. Et du coup, ça leur met vraiment un gros stress, quoi. Et c'est à nous d'essayer de faire redescendre ça pour que justement le côté artistique puisse ressortir, quoi. Et qu'ils soient pas... Même s'ils ont eu X heures de cours sur l'administration, sur comment accrocher un trapèze, tout ça, c'est, à un moment, c'est plus leur boulot, quoi. Faut qu'ils se consacrent à ce pourquoi ils sont venus, pour présenter une ébauche de spectacle, quoi. Voilà, quoi. Et c'est un endroit qui est vraiment particulier, je trouve, et qui est vachement intéressant sur ça, et où ils sont pas assez, je trouve, pas assez accompagnés, quoi. Sur ça, comme... Pareil, une fois le processus de création fini, quoi, il y a pas mal de problématiques qui se posent et qui n'ont pas été anticipées, quoi, en termes de temps de montage, de personnes qu'il faut pour le montage. Et malheureusement, on rentre dans une économie où c'est quelque chose qui est vachement important, quoi. Soit ils sortent un spectacle qui est magnifique et il faut 18 heures de montage ou 4 jours, c'est pas grave. Pour un spectacle qui est perçu modérément, ben ça va se poser cette question-là, quoi. Et du coup, c'est peut-être une réflexion. Et il commence à avoir de plus en plus de compagnies qui réfléchissent comme ça aussi, quoi. Ce qui, je trouve, est un peu triste aussi au niveau artistique, parce que ça peut réfréner, quoi.
Voilà. Ce terrible principe de réalité, qui, n'est pas très drôle, mais néanmoins existe dans nos secteurs. Daniela, je crois que tu voulais compléter.
Oui, moi j'insisterai sur la transition, par exemple entre une formation et Circus Next, il y a un temps de transition, de maturation, que ce soit personnel, que ce soit artistique, que ce soit au niveau du choix de ton rôle, est-ce que tu es auteur, est-ce que tu es chef d'équipe un petit peu de compagnie, est-ce que finalement tu choisis et tu as eu le temps de t'encadrer de ces métiers connexes que tu n'as pas envie d'assumer. Je suis aussi pour défendre... Enfin, peut-être d'arrêter de vouloir le Wonder Woman, Wonder Superman, c'est-à-dire que l'artiste ne peut pas tout faire. En un temps assez limité de formation, on se concentre justement à apprendre un métier avec des multiples facettes déjà, qui évoluent. Et je rejoindrai plus des réflexions aussi de Pascal Guilaine qui parle d'un catering system. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un catering, on n'est pas dans une offre et une demande qui arrive au temps voulu, à la température voulue, au nombre limité d'absorption avec le nombre de personnes qui sont assises pour manger. C'est compliqué aussi de positionner la formation comme un fournisseur de produits parfaits. Et ça, c'est vrai que nous, à la FEDEC, on travaille sur une qualité aussi artistique. On a aussi des différents systèmes d'initiation, j'ai envie de dire aussi, à des contextes, on va dire, très professionnels. Voilà, amener des étudiants à Circa, voir, avoir des initiations. Et comme tu dis, peut-être tu as eu 10 cours, mais tu as dormi la moitié et puis tu n'as pas intégré. Donc, je défendrai aussi la pratique, le praxis. Tant qu'on n'est pas dans le monde professionnel, il y a des choses qu'on n'expérimentera pas. C'est... évidemment, et l'école doit aussi garder ce lieu de recherche, de liberté et peut-être d'endroit d'erreur possible. En tout cas d'expérimentation artistique et personnelle, puisqu'on a aussi des post-ados et on a une évolution d'un adulte en formation. Mais ça, c'est un autre...
ce qui me semble important de souligner, là on parle donc de cette période soulignée, Daniela, l'insertion. Après, des périodes de transition, il y en a plein au cours d'une carrière professionnelle et la question du temps, elle se pose tout le temps. Et par rapport à ce travail d'accompagnement, la question du temps, elle est cruciale. Moi, j'aime bien parler de compagnonnage. Est-ce que aujourd'hui, justement, à l'échelle européenne, on est dans un marché, dans un secteur qui permet de construire ces relations de long terme qui, moi, me semblent nécessaires, et en tout cas, je l'ai entendu de la part des artistes, qu'il y a ce désir de compagnonnage. Et dans ce cas, comment on l'a construit? Qu'est-ce que ça pose comme question? Et voilà, comment finalement on pense aussi cette question dans la durée?
Là, aujourd'hui, on parle d'accompagnement. Moi, j'ai fait 12 ans comme chargé de production, chargé de diffusion de compagnie de cirque. Je me disais que je faisais de l'accompagnement. J'en fais toujours ponctuellement, mais devant les gens, je ne disais pas que je faisais de l'accompagnement, je disais que je faisais chargé de diff ou chargé de production. Mais c'est, ça va avec. Et la question de l'accompagnement sur la durée, elle est réelle et elle englobe quelque chose de très vaste, y compris ce dont parle Pierre. Mais après, la question qui va avec et qui est sous-jacente, c'est comment nous, à nos endroits de notes, de ce qui nous intéresse, et là, à la place qu'on est nous-mêmes désireux de prendre dans un processus, on arrive à vivre avec ce qu'on fait. Et l'accompagnement au sens de se mettre à disposition, mettre sa structuration de pensée à la disposition d'une pensée autre pour justement l'accompagner en toute bienveillance et en toute lucidité, c'est passionnant. Mais c'est pas susceptible d'être. Je peux pas vivre avec ça et je suis pas le seul. Et du coup, ça fait partie d'un tout qui est aussi la production, qui est aussi la diffusion, qui est aussi le développement, qui est aussi l'action artistique et culturelle quand il y en a, la direction technique, quand il y a la possibilité qu'elle soit présente suffisamment en amont. Parce que toi, Pierre, tu es présent très en amont, voire même le tout premier. Lors du processus Circus Next, mais c'est un cas particulier. C'est-à-dire qu'on est une des jeunes qui décident de monter une compagnie et qui ne passent pas par ce circuit-là vont te rencontrer beaucoup plus tard. Et ça, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et du coup, c'est arrivé, il me semble qu'il y a une vraie... Il ne faut pas distinguer les fonctions, les compétences et les places, et bien au contraire, essayer de rassembler ces endroits très précis que sont l'accompagnement DIF, prod et structuration artistique et professionnelle de façon justement à donner les moyens d'eux. Mais aujourd'hui, moi ce que je me remarque quand je nous vois nous présents ici, c'est que je ne me pense pas plus compétent, plus pertinent ou plus intelligent que mon prochain qui ferait le même métier. J'ai juste plus d'expérience. Mais je n'ai pas été formé, je n'ai pas appris ça, personne ne m'a transmis, j'ai juste de l'expérience et un intérêt pour. Et donc, du coup, les bons accompagnateurs, a priori, sont ceux qui ont le plus d'expérience, on va dire, ou le plus d'empathie, mais aussi d'expérience. Et en même temps, quand vous regardez la sociologie des métiers de ceux qui font de l'accompagnement de compagnie, en production, diffusion et accompagnement donc, c'est plutôt des métiers dont l'économie particulièrement précaires et qui sont encore relativement peu valorisés et qui concernent essentiellement des gens qui sont plutôt très jeunes et qui ne restent pas, surtout. C'est-à-dire que des gens qui font de la production, de diffusion, accompagnement de compagnie depuis 15-20 ans, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est dommage parce que du coup, il n'y a pas de transmission de compétences, il n'y a pas de transmission d'expérience, ou trop peu, beaucoup trop, pas assez, quoi.
Oui, merci en tant que vieux dinosaure de l'accompagnement. Ouais, je disais tout à l'heure que c'est effectivement un terme, je crois que parce qu'on l'emploie tellement que. Voilà, et puis pour le pratiquer depuis longtemps aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, c'était vraiment une préoccupation de redonner du sens à ce terme-là, mais c'est certainement aussi lié à un contexte et à un moment de mon propre parcours. Mais en tout cas, une des difficultés que je relève aujourd'hui par rapport notamment aux métiers que l'on pratique en production, diffusion, administration, et je pense que, voilà, en technique, tu nous diras, Pierre, ce que tu en penses, mais on est sur le terrain, nous aussi, on est dans l'action, on est dans le faire, on accomplit différentes tâches et missions, on est aussi extrêmement polyvalent sur ces métiers-là. Et à un moment donné, moi j'ai ce sentiment, donc si je dis que c'est peut-être lié à un contexte, c'est parce que quelques-uns des artistes avec lesquels je travaille depuis effectivement déjà quasiment une dizaine d'années sont aussi, par rapport à leur parcours, en train de devoir passer un peu un cap ou franchir une nouvelle étape. Enfin, voilà, il y a des choses aussi qui, voilà, dans un parcours... évolue bien évidemment, et donc c'est comment on accompagne cette évolution là, c'est des transitions, enfin toutes les choses qui ont pu être évoquées tout à l'heure. Comment est-ce qu'on les accompagne quand on est en gros la tête dans le guidon toute la journée en train de faire des budgets, de passer des coups de fil, de monter des dossiers, d'être en déplacement, etc. En gros, comment est-ce qu'on arrive à concilier le temps de la réflexion qui me semble extrêmement crucial, fondamental quand on veut être efficace, pertinent, hein, plutôt pertinent qu'efficacité, voilà, dans ce rôle, dans cette relation. C'est, j'ai pas de réponse, je suis désolée, ça m'arrangerait bien d'ailleurs. Mais en tout cas, y a forcément, et je pense que Circus Next, à l'endroit où ce dispositif justement est, donc ne répond pas à l'endroit que je viens d'évoquer, mais en tout cas, on est face à un dispositif et face à une équipe qui justement n'est pas au quotidien dans la construction des projets auprès des artistes et des équipes techniques. C'est un autre endroit, donc c'est pour moi aussi super important d'avoir des structures ou enfin, des personnes qui sont justement voilà, extérieures à ce fonctionnement-là et qui ne sont pas non plus les institutions ou les structures culturelles avec lesquelles, qui sont nos partenaires aussi, qui sont dans le bateau avec nous. Donc qui ne sont pas forcément non plus voilà, des interlocuteurs avec le plus de recul par rapport à des projets qu'ils accompagnent eux-mêmes à leur endroit.
Moi, ce que j'entends dans ce que vous, là, c'est fort. Dans ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est au final, on parle d'accompagnant, on parle d'accompagnateur. Tout à l'heure, Marine a rappelé que dans la sociologie, notamment du travail, cette notion, elle émergeait de plus en plus. Bon, finalement, c'est surtout des personnes avec des compétences qui sont très diverses, qui sont présentes ici et qu'on peut mettre derrière cette question du rôle de l'accompagnant, de l'accompagnante ou de l'accompagnateur, accompagnatrice. Mais c'est plus des compétences qu'on peut nommer finalement est-ce qu'il ne faudrait pas aussi à un moment donné légitimer hein, cette posture-là, cet endroit-là qui existe, comme le disait Charles, on ne le dit pas forcément qu'on accompagne des gens, et donc du coup de légitimer cet endroit-là, peut-être en le renommant, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas il y a clairement un métier à inventer peut-être, ou en tout cas sans parler forcément d'une identité professionnelle parce que c'est plusieurs professions, en tout cas il y a il y a vraiment un endroit qu'il faut peut-être repenser, notamment dans le lien entre les artistes, les compagnies et les institutions ou structures au sens large.
Je voudrais juste, par rapport à ce que tu dis, rajouter préciser un truc, mais aussi par expérience, j'ai remarqué, vis-à-vis des compagnies et vis-à-vis des personnes qui se retrouvent où mon rapport va être celui d'un rapport de compagnie à programmateur ou programmatrice, c'est que y a une distanciation, y a une habitude. Moi, j'ai commencé, je faisais partie de la compagnie avec laquelle je travaillais, ou le groupe d'artistes avec lequel je travaillais. Nous disions nous, ils disaient on, et voire même je travaillais pour. Et moi, après, c'est mon ego qui parle, mais c'est aussi un petit peu une réflexion quand même. J'ai longtemps ronchonné et aussi exigé qu'on précise que je ne travaillais pas pour quelqu'un, mais avec quelqu'un. Et aussi parce que cette distanciation, donc notre position en tant qu'accompagnant, elle n'est pas suffisamment explicite, à mon sens, encore aujourd'hui, et c'est bien dommage, alors que justement, nous ne sommes pas les compagnies avec lesquelles on travaille, ou en tout cas, on n'est pas obligé de l'être. Et nous travaillons avec... Nous avons une distance, nous avons une expérience, je dis on, mais une distance et une possibilité de distance, et aussi parce que une compétence, une formation et aussi un rapport distant à la création, une compréhension possible des enjeux aussi bien de celui qui accueille, celui ou celle qui accueille, que celui ou celle qui est accueilli ou qui est désireux de l'être. Et... de fait, de par l'expérience ou les relations humaines qui sont ce qu'elles sont et les amitiés qui se font, y a des relations qui se nouent et il y a des relations de confiance qui se créent, mais c'est quelque chose de très fugace et qui encore aujourd'hui est très fugace et qui est d'abord et avant tout lié à la relation humaine, ce qui est essentiel et fondamental. Mais ça, il me semble que ça serait intéressant de le réfléchir. De le réfléchir ensemble pour le formaliser quelque part, pour lui donner vraiment un espace, pour que la légitimité de cette place-là soit vraiment claire, sans que les personnes ne se sentent ou en danger, ou sous-évaluées, ou mal placées. Mais Je pense, après ça, ça se discute, mais je sais que quand j'ai commencé, et c'est, même pour moi, c'était évident que bien accompagner, ou en tout cas faire la diffusion d'un spectacle X ou Y, passait d'abord par être le premier fan de l'artiste ou du projet artistique. Aujourd'hui, je ne pense pas. Et je pense que bien accompagner un projet artistique ne passe pas forcément par adhérer à la proposition artistique. Si vous ne pouvez pas blairer le spectacle, c'est un peu dommage. Mais vous n'avez pas besoin pour autant d'être dans une adhésion totale. Par contre, dans une compréhension du projet, dans une compréhension de la psychologie des personnes qui font, dans une compréhension de leurs désirs, de leurs intentions aussi, dans une forme de lucidité par rapport à où ils en sont, par rapport à les esthétiques dominantes dans un secteur, dans un domaine, qui est leur réseau, comment se composent leurs réseaux, avec qui ils travaillent, et est-ce que ça fait sens de continuer à travailler de cette manière-là parce que la proposition est cohérente par rapport à leur, je ne sais plus comment on dit, leur environnement. Mais ça me semble plus intéressant, plus pertinent, plus efficace et efficient que d'être dans la seule adhésion.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a une question d'apprendre aux gens à se poser des questions et se les poser au bon moment. Tu disais aussi, Pierre, que finalement, c'était ça aussi, quoi, amener les gens à se poser les questions qu'il faut au moment où il faut se les poser. Est-ce que c'est quelque chose aussi, finalement, au cours de que ce soit la formation initiale ou la formation continue, c'est quelque chose qui est très développé. On le voit à Circus Next, la difficulté parfois à formaliser son projet, à en parler, c'est une réalité, savoir écrire un dossier, savoir le présenter à des gens, le transmettre. Et tout ça, c'est des questions de pratique professionnelle, finalement, qui sont assez peu, comme tu dis, formalisées. Là, on rejoint une problématique qui, moi, m'est chère, qui est de formaliser l'informel. Je pense que vous l'avez tous nommé, Pierre, tu me l'avais nommé aussi. C'est très informel, ces discussions-là. Il y a beaucoup d'informels. On discute entre deux moments de ces questions-là. Alors, on boit une bière au bar et on parle de ça. Et à un moment donné, est-ce qu'il ne faudrait pas formaliser ce formel ? Alors, le programme de mentoring de Circus Next est un exemple de formalisation. Le travail que tu fais, Pierre, est en tout cas, pour l'instant, moins formalisé, même s'il est bien réel. Donc, toi, Géraldine, tu évolues dans une structure où, effectivement, cette question-là se formalise. Et peut-être que tu pourras nous dire un petit peu aussi comment, concrètement, ces questions plus de former sur certains points techniques se matérialise. Et puis au niveau de l'école, de l'insertion professionnelle des jeunes artistes, finalement, oui, est-ce qu'on donne les outils pour réfléchir assez concrètement ? C'est une question que je me pose et que je vous pose. Donc.
C'est vrai que on commence par l'équipe pédagogique. Pour avoir travaillé aussi avec toi récemment sur la formation continue, on a une volonté de continuer à rassembler les praticiens, à faire des échanges entre pairs et à faire évoluer la pédagogie et poser même la question de ce dont tu parlais tout à l'heure, du maître ignorant. Je crois que c'est un challenge. C'est un challenge dans une course à une formation de qualité, à un très haut niveau artistique et technique. Et cette notion de se questionner, un peu socratique, elle doit être nourrie, mais on n'a pas forcément tous les outils, je pense, et chaque école fait aussi en sorte de le recréer en continu. Donc c'est beaucoup par le professeur que ça passe aussi. Et alors, le travail, je pense, les dernières années, vraiment axé sur l'identité, en fait, l'individualisation finalement de l'accompagnement est beaucoup plus qualitatif. C'est-à-dire qu'on se concentre beaucoup plus sur l'individu, on investit beaucoup plus sur l'individu et on met encore plus d'efforts pour rassembler une équipe, même externe. Alors évidemment, c'est pas assez, mais comme on disait, per capita, un artiste de cirque coûte beaucoup plus cher qu'un plasticien, etc., en vue de l'investissement technique, etc. Donc, c'est un vrai challenge pour notre secteur, je trouve. C'est pour ça que le débat, il est intéressant à des différents niveaux de nos responsabilités, autant que soit organisation, soit en tant qu'acteur. Parce que c'est le maillage et le dialogue entre nous qui peut arriver, en incluant les artistes, qui sont souvent un peu minoritaires. Je regarde ici, par exemple.
Oui, Pierre, sur ce truc-là de dialogue, Pierre, tu m'en as beaucoup parlé aussi, finalement, de faire dialoguer ces mondes un peu parfois différents, même, enfin, je sais pas, entre un théâtre qui accueille et une compagnie qui accueille, il n'y a pas forcément le même dialogue, et finalement, ton rôle aussi, c'est de trouver l'endroit du langage commun ou de traduire la pensée de l'autre pour l'adresser à l'autre.
Il y a ça, mais comment dire, au sein d'une compagnie, déjà évidemment, il faut un dialogue, il faut créer quelque chose au-delà du spectacle, il faut créer une équipe technique, il faut créer de l'administration, de tout ça, de la diff. Mais il y a aussi, je m'en rends compte aussi, comme tu dis, avec un peu d'expérience, c'est le lien qu'on peut avoir, ou le questionnement qu'on leur apporte, surtout avec les institutions, avec les lieux qui vont les recevoir. Parce que on travaille tous dans la culture, tout ça, mais on n'est pas aux mêmes endroits. Quoi. On n'est pas aux mêmes endroits. Tout à l'heure, il y a monsieur qui parlait des conventions collectives. Dans une compagnie, en gros, sauf les grosses compagnies qui peuvent se le permettre, juste on passe au-dessus parce qu'on ne peut pas faire autrement. Sauf que quand on va venir dans un théâtre, on va devoir les respecter, ce qui est normal. Et du coup, tout ça, c'est un dialogue. Et c'est des fois un dialogue de sourds à des endroits différents, quoi. Parce que chacun a ses propres problématiques. Et du coup, c'est un vrai problème. Comme sur certaines compagnies avec qui je discute, qui vont aller dans tel ou tel festival, je leur dis attention, il faut savoir s'adapter aussi. Parce que vous êtes dans mode festival, vous n'êtes pas accueilli en date isolée, du coup vous n'aurez pas tout, vous n'aurez pas, il faut savoir faire avec, et ça c'est aussi, ça fait aussi partie du boulot à l'heure actuelle, quoi. Et on peut, et des exemples comme ça il y en a des cent et des mille, quel que soit le gros festival, quoi, que ce soit d'ailleurs en cirque ou en théâtre, c'est exactement pareil, c'est pas la même chose entre être accueilli à la Colline en résidence pendant 3 mois ou faire le festival d'Avignon, quoi. On n'a pas la même chose, quoi. Et il n'y a pas les mêmes enjeux, il n'y a pas les mêmes attente non plus, quoi. Et du coup, c'est voilà, il y a d'un à l'intérieur de la compagnie où il y a tout un cheminement de la parole qui est vachement important, que ça soit verticalement ou horizontalement, mais il y a aussi à mettre ça en place avec les gens qui, des structures qui vont programmer ou qui sont susceptibles de programmer, ou une fois qu'ils ont décidé de programmer, c'est jusqu'où on peut lâcher et qu'est-ce qu'on ne peut pas lâcher, quoi. Et ça, c'est aussi du dialogue à chaque fois, quoi. Et c'est juste, je crois que si chacun s'écoutait les uns les autres, ça irait bien. C'est tout, quoi. Et sans que ça coûte forcément plus cher, quoi. C'est juste savoir écouter, savoir entendre ce que dit l'autre et savoir que ils sont pas au même, on n'est pas aux mêmes attentes, aux mêmes endroits, quoi. Mais par contre, on veut produire le spectacle pour le public, quoi. Donc il faut trouver le chemin d'accès pour y arriver, quoi. Enfin, voilà.
Ouais, c'est comprendre effectivement les attentes. Peut-être Géraldine, tu peux nous dire un petit peu toi aussi ce que tu perçois dans les artistes que vous, soit que vous accompagnez, que vous recevez en résidence, que vous recevez pour le festival aussi, avec ces configurations qui sont très différentes. Ce qu'il en est justement de cette, à la fois de cette nécessité de langage commun. Et en même temps, des outils très concrets, hein, qui peuvent être, soulevés.
Pour reprendre un exemple précis que tu viens d'évoquer, Pierre, puisqu'il a été soulevé effectivement tout à l'heure, la convention collective, effectivement, tous on ne peut pas l'appliquer, mais tous n'en ont pas connaissance. Donc ceux qui déjà se disent bon, ça existe, mais je ne peux pas l'appliquer, mais il y a tous ceux, voilà. Et c'est voilà, la question de la connaissance, j'y reviens, mais je crois qu'elle est vraiment cruciale, en fait. Ça crée un malaise, en fait, quand on a le sentiment qu'effectivement il nous manque des informations, qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, ça crée des malaises, ça crée des enfermements, des cloisonnements. Et donc des non-dits, et je pense qu'on arrive effectivement, comme tu le dis, dans des situations où on manque cruellement de dialogue, alors que ça pourrait être finalement assez simple très souvent, je te rejoins vraiment. Donc comment on peut tous à nos endroits faire en sorte qu'il y ait une meilleure connaissance de ces métiers, du secteur,
Nous, très concrètement, alors c'est tout bête, mais nouvelle collaboration avec une nouvelle compagnie, on demande à l'équipe, donc le noyau dur de l'équipe, hein, mais ce n'est pas que l'équipe artistique, ce n'est pas que le porteur de projet, ça va être aussi son équipe technique, de venir passer minimum une semaine, bon, allez, 4 jours. 4 jours, on lâche sur 4 jours, avec nous dans notre bureau, en fait. Voilà, pour vraiment consacrer du temps où chaque personne de l'équipe va consacrer du temps à expliquer quelles sont ses missions, quelles tâches il effectue, prendre la personne avec elle un peu en forme de stage, d'immersion. Donc il va pouvoir passer comme ça sur les différents postes. On prend aussi le temps de se retrouver sur des questions précises qu'on aura identifiées au préalable, donc des réunions, des brainstorming, enfin... Ça nous semble vraiment essentiel, et en demandant à ce que donc l'artiste ou des personnes de son équipe viennent régulièrement pendant l'année passer comme ça 2-3 jours. Alors on met la barre un peu haute en disant une fois par trimestre, mais parce qu'on sait que ce sera moins régulier que ça. Mais ça commence à bien fonctionner parce que nous on est en déplacement, nous on est extrêmement mobile, donc présent sur principalement les temps de résidence ou de diffusion, donc ça nous permet aussi d'être avec l'équipe in situ et de participer aussi à ces temps-là et avoir cette vision de comment ça se passe quand on est dans les lieux. Mais il nous semblait quand même assez important qu'on puisse avoir la réciproque. Donc voilà, on est parti sur ce principe-là. Et donc, puisque dorénavant, on a un lieu qui est un lieu principalement dédié à de l'accueil d'équipes en résidence, on a envie d'être un peu sur le même schéma. Donc forcément, on va l'adapter. Mais pour vraiment dédier un temps, on va dire, c'est un temps d'immersion, un temps de rencontre, mais sur nos métiers, en fait.
Oui, finalement, c'est cette question de maturation et puis de prendre le temps de s'identifier à ces métiers qu'on a nommés auteur, porteur de projet et ce fameux terme d'entrepreneur qui existe, même s'il est peu nommé, en tout cas moi, par les artistes que j'ai interrogés. On s'identifie peu chez les artistes à cette figure-là, mais peut-être par méconnaissance aussi de ce qu'est ce métier aussi quand on porte un projet, de devenir entrepreneur, c'est-à-dire en fait de gérer des budgets, du personnel aussi, et puis du coup pouvoir l'envisager dans le long terme. Je ne sais pas si en conclusion quelqu'un veut rebondir là-dessus, parce qu'on va bientôt devoir clore cette discussion.
Non, mais c'est parce qu'on en a parlé tout à l'heure par rapport au mot entrepreneur qui n'est pas forcément très habituel dans nos domaines. Mais c'est juste de faire la distinguo et de nous, c'est aussi, enfin, c'est notre réalité au quotidien. C'est qu'on travaille avec des artistes et puis je vais rencontrer quelqu'un, on va discuter ensemble et on va vouloir, peu importe, mais on va commencer une collaboration. Et cette collaboration, elle peut être pour un spectacle qui n'existe pas encore. Monter ce projet. Et à nous, on va avoir évalué ensemble la nécessité et les désirs de le faire ensemble, mais l'unique réalité sur laquelle on travaille, c'est il faut créer ce spectacle parce que c'est nécessaire, point. Après, qu'est-ce que ça va donner, on verra bien, mais en tout cas, toute la structure juridique qui va être mise en place sous réserve qu'elle n'existe pas déjà, c'est une structure juridique qui est faite et qui est pensée, et c'est une structure même d'équipe qui est pensée juste au service de la réalisation de ce spectacle. Après, c'est aussi à nous, en tant que, enfin, moi c'est ce que je pense, mais c'est aussi à nous, au fur et à mesure des rencontres et puis aussi des types de personnalités avec lesquelles on travaille, de peut-être amener les gens à prendre un tout petit peu de distance avec le pourquoi ils viennent nous voir. Et puis, quand quelqu'un vient me voir en me disant est-ce que tu serais OK pour faire la production de mon projet de création ? Peut-être qu'à la fin de la discussion, il y a, mais qu'est-ce que tu veux faire à part un projet de création ? Ok, ça va sortir dans 2 ans, et après, tu vas faire quoi ? Et puis après, on va avoir levé tout ce projet ensemble, toute cette structuration, on va avoir imaginé tout ça, mais au service de quoi? Ça va s'arrêter après, qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va le penser, etc. Et je trouve que c'est vachement important aussi pour les accompagnants que d'anticiper l'après, et même de dépasser parfois la demande de celui ou celle qui nous sollicite, pour aller chercher justement ce qui va un petit peu plus loin. Après, par rapport à cette notion d'entrepreneur, il y a, mais ça c'est très franco-français, c'est le fait que la structuration juridique dominante en France, de fait, c'est l'association, et que la responsabilité légale, dans l'immense majorité des cas, n'est pas assumée par la personne qui a la responsabilité réelle. Et je pense que cette notion d'entrepreneuriat, si la responsabilité réelle, elle était assumée par celui qui fait, ou celle qui fait, elle ne s'opposerait pas du tout de la même manière.
Bah merci, on va devoir s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je retiens cette question du temps quand même, qui me paraît cruciale à continuer à réfléchir pour pas justement être dans une vision de court terme et de projet. C'est très à la mode d'être dans une vision de projet. On a un peu oublié que les visions de long terme, quand même, c'était structurant. Et puis, sur ces rôles-là de passeur, traducteur, transmetteur de quelque chose qui me semble encore avoir besoin d'être et légitimé et réfléchi ensemble pour leur donner peut-être une place plus présente, plus forte dans notre secteur. On va devoir s'arrêter là pour passer à la fin, enfin la conclusion de cette journée. Cécile, je te repasse le micro. Merci beaucoup à vous tous et merci aussi pour le travail de préparation qu'on a fait en amont.